Je vais prier, chers amis, avant de parcourir ce que nous avons lu ensemble. Vous allez trouver sur le dos de votre feuillet un plan qui vous aide éventuellement à suivre ce que je compte vous dire. Donc, prions ensemble que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous avons chanté que ta parole est une lampe à nos pas. Nous te prions que tu éclaires donc notre chemin encore ce matin. Nous te prions que nous soyons à l'écoute de ta voix, que nous puissions voir Jésus-Christ de manière encore plus claire, que nous puissions donc continuer ou commencer dans la foi chrétienne, parce que nous voyons à quel point Jésus est digne de notre confiance. Nous demandons cela au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Je suis un fan, moi, de grands exploits de persévérance. Vous savez, j'aime regarder de telles choses de temps en temps à la télé ou lire des récits des personnes qui ont fait de grandes choses, en partie parce que je ne le fais pas ces choses moi-même. Et donc, ça me donne envie de me projeter dans les exploits des autres en imaginant que c'était moi. C'est triste, n'est-ce pas? Alors, j'y pense, en fait, chaque fois que je fais du jogging, je sais, je n'ai pas l'air d'être quelqu'un qui fait beaucoup de jogging et ma famille me demande d'en faire encore plus, mais je peux dire que lorsque je m'y mets, pour moi, c'est un combat. Presque après 400 mètres, c'est déjà un combat. Ce n'est pas après 2-3 kilomètres, c'est dès le début. Combat physique, mental, de continuer à courir malgré le désir trop fort de m'arrêter quand je suis épuisé. Mais en parlant de quelqu'un qui sait courir, je vous parle maintenant d'un homme qui est l'homme le plus vite pour les longues distances, c'est-à-dire le marathon qui comprend 42,6 je pense, kilomètres. Et cet homme s'appelle Eliud Kipchoge, il est un Kenyan. Et juste le mois dernier, il a battu le record mondial à Berlin, 2h, 1 minute et 39 secondes. Ça, c'est loin en haut de ce que moi je peux jamais imaginer. Le 6 mai 2017, il participait à une expérience contrôlée, sponsorisée par Nike. Nike, on lui a donné des belles chaussures pour cela, pour essayer de courir en dessous de 2h pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Vous pouvez trouver ce truc sur YouTube, c'est assez intéressant. Moi, j'ai trouvé en tout cas. Le tout, donc, c'était de battre ce record. Et cela a eu lieu sur le circuit de Formule 1 à Monza, en Italie. Et ils ont commencé à 5h du matin, je pense que c'est le meilleur moment de courir, apparemment, un truc comme ça. Ils devaient faire 17 tours du circuit pour faire les 42 kilomètres. Mais malheureusement, il a raté cet objectif d'aller en dessous de 2h par 25 secondes. C'était un bel exploit. Et tout au long des 17 tours, il avait été accompagné par des personnes à vélo et aussi autour de la course pour l'encourager, pour qu'il continue à faire ce qu'il était en train de faire. Le message ne changeait pas. C'était « Eliud, c'est bien, continue, tout le temps, comme ça. » Dans un sens, c'était un peu répétitif, mais c'était nécessaire. Car il fallait tout faire pour que cet homme atteigne son objectif. Alors nous, les chrétiens, dans ce livre, les Hébreux, depuis maintenant 2-3 semaines, nous essayons de voir le message de ce livre. Et ce livre est écrit aussi pour encourager des chrétiens dans leur course chrétienne. Le verset 1 de notre chapitre, chapitre 3, nous dit de notre vocation, notre appel, si vous voulez, céleste. Ce qui nous attend, c'est le ciel, c'est la gloire céleste. C'est ça l'objectif pour le chrétien. Et c'est un objectif, c'est une espérance une gloire à venir possible grâce à Jésus-Christ. Celui, d'après le chapitre 2 que nous avons déjà vu, qui a goûté la mort pour que par sa mort, nous puissions connaître le pardon de nos péchés et donc nous puissions avoir une espérance solide de la vie au-delà de la mort. Et le verset 6 de notre texte parle du besoin de retenir notre assurance et notre espérance. Car le danger pour les chrétiens qui recevaient cette lettre, c'était d'abandonner leur espérance, de ne pas poursuivre leur course, d'abandonner leur appel céleste. Et donc, à plusieurs reprises dans ce livre, nous entendrons l'appel « Continuez jusqu'au bout, ne lâchez pas ce que vous avez commencé. » Et oui, dans un sens, c'est répétitif, mais cela ne signifie pas que ce n'est pas important. Ce n'est pas de nous dire « Ah, oh, j'ai entendu ça, vous savez, il y a 2-3 semaines, pas besoin d'entendre ça encore une fois. » Non, si nous l'avons entendu il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, nous allons réentendre de nouveau cet appel pour continuer dans la foi chrétienne. Et si pour vous, vous dites « Mais je n'ai même pas commencé la foi chrétienne », alors pour vous, ça devient un appel à commencer dans la foi chrétienne, parce que ça vaut la peine. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que cette exhortation, continuez, retenez, ne lâchez pas, ce n'est pas une exhortation vide d'exhortation, vide de contenu. Non, il faut du contenu pour que l'exhortation a du sens. C'est assez facile à comprendre, ça. Ici, la comparaison avec M. Kipchoge ne marche pas. Car lui, il avait besoin de cet encouragement parce que c'était un homme capable, en quelque sorte, de faire ses 17 tours en dessous de 2 heures. Mais imaginons que moi, j'ai essayé de faire ce que lui, il a fait. Apparemment, quand il a battu le record du monde à Berlin, il a couru tous les 100 mètres qu'il y avait, des 42 kilomètres, il a couru tous les 100 mètres en moyenne 17,3 secondes. Mais il a fait ça 420 fois pour arriver à son objectif. Impressionnant. Demandez à Monsieur Orange, c'est moi, de courir 100 mètres dans 17,3 secondes. J'aimerais croire que ce serait possible une seule fois. Mais je ne suis même pas convaincu que j'arriverai une seule fois dans 17 secondes. Mais imaginons, je peux faire ça 2-3 fois. Grand maximum, je serais totalement mort à ce moment-là. Mais après, j'ai mon équipe autour de moi, c'est vous, en train de dire « Steve, super, super, continuez, il faut faire ça encore 417 fois, vous savez, allez-y !» À ce moment-là, je baisse les bras. Okay? Je dis « Vous vous moquez de moi, il n'y a pas de respect par rapport à votre pasteur, là. Okay? » Parce que moi, j'ai aucun moyen pour y arriver, aucune raison de croire que ce serait possible. De même, alors, pour le chrétien, l'exhortation que nous recevons ici doit être avec du contenu pour que ça ait du sens. Ça ne sert à rien juste de taper quelqu'un sur le dos. Continuez. Ça va? Non, ça ne va pas super bien. Continuez, il n'y a pas de souci. Ça ira. Mais qu'est-ce que ça signifie? S'il n'y a rien du solide en dessous. Et peut-être juste ici, un tout petit mot pour ceux qui sont plus jeunes parmi nous, ceux qui, pour le moment, restent encore un peu sous la tutelle de la famille, qui viennent maintenant dans ce culte parce qu'ils sont trop âgés pour monter à l'étage. Dans un sens, ils sont peut-être là par tradition ou par respect pour les parents, même par obligation. Et vous vous dites, bon, quand le pasteur commence à parler, ben, ça ne me concerne pas. Moi, c'est un peu lent, d'ailleurs, normalement, ce que lui, il dit. Moi, j'aimerais vous dire, à vous, que je comprends que ça ne va pas que vous avez des parents qui disent tout le temps, continuez, vous savez, soyez à l'église, il faut faire le nécessaire, il faut être sage, okay? Il faut lire votre Bible. Et petit à petit, vous dites, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi ça ne m'intéresse pas? J'espère que ça vous intéresse. Ce que je veux dire, là, c'est que vous devez puiser, creuser maintenant vous-même. Vous commencez à devenir grand et vous ne pouvez pas continuer simplement en disant « c'est bon, je dois le faire, c'est la tradition ». Vous devez découvrir pour vous-même le contenu, que ça vaut la peine de continuer avec Jésus-Christ, ou de commencer avec Jésus-Christ, parce qu'il y a du contenu qui nous aide à voir que Jésus est supérieur à toute autre chose. Et donc ça, ça nous mène à notre premier point que vous avez sur le schéma, là, sur le plan. Considérons Jésus, il nous est indispensable pour appartenir à la maison de Dieu. Considérons Jésus, il nous est indispensable pour appartenir à la maison de Dieu. C'est quasi la totalité des versets que nous avons lus. Nous voyons ce point jusqu'à la première partie du verset 6. Considérons, dit-il, Jésus. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce mot de devoir considérer Jésus? Et juste deux exemples de ce même mot employé ailleurs dans le Nouveau Testament pour nous sensibiliser à ce que nous devons faire lorsque nous considérons Jésus. Donc, Luc chapitre 12, vous pouvez rester en hébreu, mais si vous voulez voir Luc chapitre 12, verset 24, nous sommes appelés par Jésus là de considérer les corbeaux. Ils ne sèment ni moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? C'est-à-dire, voyez les oiseaux, regardez bien, réfléchir par rapport à cela. Prenez le temps, ne soyez pas bêtes, faisons le nécessaire pour comprendre, selon Jésus, qu'il prend soin des oiseaux, il peut prendre soin de vous. Verset 27, c'est de nouveau la même chose. Est-ce que maintenant, de nouveau, je me trompe? Je me suis trompé déjà ce matin. Je suis dans le mauvais chapitre, c'est pour ça. Verset 27 nous dit ceci. Considérez comment croissent les lits. Les lys, les lits. Lys. Oh. Okay. Ils ne travaillent ni le fillent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc, considérez, réfléchir à cela, c'est important. Prenez le temps. Et donc, on revient vers Hébreux et nous voyons que nous devons considérer Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, alors, considérer Jésus? Qu'est-ce qu'il y a chez Jésus qui mérite notre réflexion? Verset 1, pour commencer, il est l'apôtre et le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le prêtre, le grand prêtre. D'abord, il est l'apôtre. Ce n'est pas habituel de considérer Jésus comme apôtre, vous savez. Jésus lui-même avait des apôtres, ceux que lui, il a envoyés pour être ses témoins. Mais ici, Jésus est celui qui est envoyé, l'envoyé de Dieu, l'apôtre, c'est ça ce que ça signifie. Envoyé par Dieu, le pionnier, d'après le chapitre 2, verset 10, pour délivrer le peuple de Dieu du pouvoir du diable, pour mener ce peuple vers la gloire céleste. Comment a-t-il pu, l'envoyé de Dieu, effectuer cette mission qu'il a reçue de son Père par son œuvre en tant que souverain sacrificateur, grand prêtre? Lui, le grand prêtre, il a pu se rendre dans la présence de Dieu, c'est ça ce que faisait un grand prêtre, pour offrir un sacrifice agréable à Dieu, c'est ça ce que faisait un grand prêtre, pour les péchés du peuple de Dieu, c'est ça ce que faisait un grand prêtre. Mais ce grand prêtre a offert un sacrifice pour nos péchés, pour vos péchés. Si vous confiez dans ce grand prêtre. Mais son sacrifice, ce n'était pas le sang des animaux comme faisaient les grands prêtres de l'Ancien Testament. Non, son sacrifice est fait avec son propre sang à lui. Donc Jésus, le grand prêtre, a été puni lui-même pour que la colère sainte et juste de Dieu à notre égard soit pleinement satisfaite. Donc pour vous et pour moi de trouver le chemin vers la gloire céleste, avoir un espoir après la mort, il nous faut Jésus-Christ. Considérez Jésus, l'envoyé de Dieu, le grand prêtre de Dieu. Ces deux éléments font partie de notre confession, comme dit ce texte. C'est ce qu'ils confessaient les premiers chrétiens, qu'ils reconnaissaient publiquement. Et donc, ces éléments doivent continuer à faire partie de notre confession. Mais non seulement il est l'apôtre et le souverain sacrificateur, mais deuxièmement, il est comme Moïse, fidèle dans toute la maison de Dieu. Jésus, nous dit le verset 2, a été fidèle à celui qui l'avait établi. Dieu le Père l'a établi. Lui a donné sa mission. Jésus était fidèle à cette mission. Il a accompli la volonté de cette. Considérez Jésus fidèle. Et ensuite, l'auteur nous introduit quelqu'un d'autre. Pour quelques instants, nous sommes invités à considérer un autre personnage, un grand personnage de l'Ancien Testament, Moïse. Moïse, qui lui avait mené le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte, au pays promis. Moïse, que Dieu avait donné sa loi pour son peuple. Moïse, à qui Dieu avait parlé bouche à bouche d'après la lecture que nous avons vue dans Nombre chapitre 12. Moïse qui a pu voir de manière exceptionnelle la gloire de Dieu, dont le visage aussi reflétait la gloire de Dieu. Ce Moïse, nous dit notre texte, lui aussi avait été fidèle dans toute la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une expression pour parler du peuple de Dieu, de ceux qui appartiennent à Dieu. Et Dieu est le chef de la maison. Et ceux qui se trouvent dans sa maison sont ceux qui font partie de sa famille. Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Cela évoque la lecture dans Nombre 12 que nous avons lu, où Dieu affirmait la fidélité de Moïse dans un contexte lorsque le peuple de Dieu rouspétait contre Moïse. Même la sœur de Moïse et son frère Myriam, Aaron, les proches, les intimes de Moïse, remettaient en question la capacité de Moïse de mener le peuple. Et c'est à ce moment de tension et de doute à propos de Moïse que Dieu affirme son choix de Moïse, lui seul, et fidèle dans toute la maison de Dieu. Myriam tombe sous le jugement de Dieu avec la maladie. Et Jésus, nous dit notre texte, comme Moïse, a été fidèle. Mais non seulement il est comme Moïse, mais troisième point, il est supérieur à Moïse. Parce qu'il est le fils, tandis que Moïse est le serviteur. Jésus, quant à lui, est bien supérieur tant que Moïse. Et l'auteur donne une illustration d'une maison, ici. Tout comme l'architecte d'une maison a plus d'honneur que la maison elle-même, de même, il faut accorder plus d'honneur à Dieu, le constructeur de son peuple, sa maison, qu'à la maison elle-même. C'est logique, c'est clair. Qui aujourd'hui connaît l'adresse rue Paul-Émilie Janson, numéro 6, à Bruxelles? Mais qui a entendu parler de Victor Horta? J'espère, là, j'ai quelques mains quand même. Hein? Si on ne sait pas encore ce qui c'est Victor Horta, c'est bien découvrir les maisons de Victor Horta. C'est le grand architecte de l'art nouveau belge dont les Belges sont fiers, à juste titre. Mais l'adresse Paul-Émile Janson 6, c'est l'adresse de l'hôtel Tassel, une des premières constructions de Victor Horta, l'une de ses premières œuvres, très connue. On ne peut pas entrer dedans aujourd'hui, mais nous pouvons le voir de l'extérieur. ultimement, c'est clair, il y a plus de gloire qui va à Horta lui-même qu'à des maisons qu'il a construites. Bon, c'est une illustration, chers amis, vous comprenez. Le verset 4 nous dit que toute maison est construite par quelqu'un. Et puis, l'auteur nous montre pourquoi Jésus est supérieur à Moïse. Car il continue que celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Dieu est le constructeur par excellence. C'est lui qui construit sa maison, son peuple. Moïse, lui, verset 5 continue, était fidèle dans toute la maison de Dieu, mais comme serviteur. Il fait partie lui-même de la construction. Il fait partie du peuple de Dieu. Mais Christ, lui, est fidèle comme un fils. Fils, non pas dans la maison, mais sur la maison. Car le Fils, rappelons-nous du chapitre 1, versets 2 et 3, c'est par lui que Dieu a créé l'univers. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Donc ce n'est pas pour dénigrer ce matin Moïse. Moïse avait une place importante dans la maison. C'était un homme fidèle. Mais Jésus a l'autorité sur la maison. Il est le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, Moïse lui-même pointait le doigt vers Jésus. Verset 4 nous dit que Moïse rendait témoignage à ce qui serait annoncé. Nous sommes témoins, nous montrons de ce que nous avons vu, un événement qui a eu lieu dans le passé. Mais Moïse était témoin dans quelque chose qui allait encore venir dans le futur. Le Seigneur, à travers Moïse, avait parlé de quelqu'un, Deutéronome, chapitre 18, qui allait venir, qu'il ressemblait à Moïse, le prophète par excellence que Dieu devait envoyer pour le peuple de Dieu. Ce prophète, c'est quelqu'un plus grand que Moïse. Et ce prophète, en Jésus-Christ, il est venu. Alors, notre auteur nous dit, considérez Jésus. Il est supérieur à Moïse. Ce n'est pas que Moïse n'était pas grand, il était, mais Jésus est plus grand. Si vous voulez, on peut penser à un voyage que nous venons entamer en voiture d'ici, prenant à une grande ville de l'Europe, jusqu'à Rome. Okay? Ce n'est pas parce que j'ai choisi Rome, parce qu'elle est meilleure que tout autre, mais ici, pour mon illustration, on va jusqu'à Rome. Okay? C'est ça notre objectif, d'aller en vacances là-bas. Mais pour y aller en voiture, on peut passer par de bonnes villes intéressantes à Luxembourg, Strasbourg, Mulhouse, Berne, Milan. Tout ça peut se trouver, si on le souhaite, sur le trajet pour arriver à Rome. On peut trouver de bons hôtels pour loger pour une nuit ou deux avant de continuer notre voyage. Mais l'objectif, en passant par toutes ces autres villes, c'est pas d'y rester, mais c'est de continuer pour prendre nos vacances à Rome. C'est ça la destination. Bon, si vous voulez, l'Ancien Testament est rempli de belles villes, de grands personnages. Il y a des choses à apprendre de Moïse et d'autres personnages de l'Ancien Testament. Mais la destination, c'est Jésus-Christ, le Fils. Et ces grands personnages, on reste une nuit ou deux chez eux, ils nous aident à atteindre notre objectif, Jésus-Christ. C'était le cas de Moïse. Et donc, il ne faut pas se tromper, dit notre auteur. Il faut considérer Jésus. Pour ceux qui recevaient cette lettre au départ, eux, ils venaient d'un contexte juif. Et leur danger, c'était de retomber dans le judaïsme, là où Moïse, au-dessus de tout autre, était vénéré, honoré. Le judaïsme, c'était la religion mère, si vous voulez. Elle avait ses traditions, ses écrits, ses prophètes, ses fêtes, sa place bien établie dans le marché religieux du monde antique. Et les chrétiens avaient rompu avec tout cela. Et du coup, maintenant, après quelques années, il commence à poser la question, mais est-ce qu'on avait tort de faire ça? Est-ce que nous abandonnons Jésus pour revenir vers ce que nous avons connu avant? Et donc, le contraste ici entre Moïse et Jésus, c'est important pour qu'il n'abandonne pas Jésus pour Moïse. Non, Jésus, c'est la réalisation de tout ce que Moïse voulait. Il devait donc considérer Jésus, sa fidélité à Dieu. Nous devons aussi considérer Jésus. Et cela signifie, avant d'aller plus loin, que nous devons être ceux qui, consultant ce livre-ci, la Bible, car ce n'est que dans ce livre que nous pouvons considérer Jésus. Dans notre vie collective, en tant qu'Église, dans notre vie personnelle, là où on se trouve, à la maison, est-ce que la Bible est ouverte? Est-ce que la Bible reste le centre pour que nous puissions continuer à considérer Jésus? Est-ce que ma Bible se trouve quelque part sur une étagère avec beaucoup de poussière? Ou est-ce que c'est une application dans mon GSM qu'en fait j'ouvre très peu par rapport à Facebook, à Instagram ou d'autres? Si nous voulons considérer Jésus, nous devons avoir le réflexe d'avoir la Bible ouverte régulièrement, chers amis. Mais la deuxième exhortation que nous voyons restant donc avec Jésus va de pair avec cette première exhortation. Car si nous sommes exhortés à considérer Jésus, nous sommes aussi exhortés de rester avec Jésus-Christ. Restons avec Jésus, c'est la condition indispensable de notre preuve d'appartenance à la maison de Dieu. Nous sommes sa maison si nous retenons l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est un appel à persévérer dans la foi chrétienne, d'avoir des racines suffisamment ancrées en Jésus-Christ, pour ne pas flétrir lorsque nous sommes confrontés par la difficulté ou la persécution ou les tentations que notre monde nous offre. Mais afin de poursuivre la vocation céleste que nous avons reçue, nous devons persévérer. La persévérance est la démonstration de l'authenticité de notre foi, que nous sommes sa maison, que nous faisons partie donc du peuple de Dieu, grâce à Jésus. Mais j'imagine que notre danger, à nous, ce n'est pas de vouloir retourner à Moïse. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui aimeraient retourner vers le judaïsme, qui sont parmi nous. Je vous dis, ne le faites pas, restez avec Jésus. Il y avait quelqu'un, Wissam nous a parlé de quelqu'un qui voulait aller vers l'islam, Mohamed. Ne le faites pas, restez avec Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Mais d'autres d'entre nous ne seront pas tentés d'abandonner Jésus dans ces circonstances-là. Pour nous, c'est face à la difficulté ou des effets ou des attraits trompeurs de ce monde ou la persécution même de la part des autres qui sont contre la foi chrétienne. C'est de baisser les bras face à ces difficultés-là, d'arrêter la course, dire « ça ne vaut pas la peine avec Jésus ». Vous savez, c'est facile en faisant du jogging de raisonner pour justifier mon désir d'arrêter. Okay? Je suis là, j'ai fait 400 mètres, j'ai fait 1 km, j'ai fait 2-3 km, et qu'est-ce que j'ai en tête? J'ai le fait que mes muscles brûlent. Okay? J'ai le cœur qui bat un peu trop fort, j'ai les jambes qui sont trop lourdes, j'ai le fait que j'ai mangé un dessert hier que je ne devais pas manger, et je pense à la facilité de simplement m'arrêter et de marcher. Ça demande un effort de continuer. Confesser Jésus-Christ, ça demande aussi un effort, chers amis. C'est coûteux d'être chrétien, vous le savez si vous êtes chrétien. C'est coûteux en termes d'énergie, en termes consacrés dans ma semaine aux activités que le Seigneur Jésus me dit sont importantes. C'est coûteux en termes du regard que les autres pourraient avoir de moi lorsque je m'affiche comme étant chrétien, engagé aujourd'hui. C'est coûteux en termes de rendre conforme mes propres désirs à moi, à la volonté de Dieu, tel que Jésus me l'a dit dans les Écritures. C'est coûteux d'être chrétien. Mais face à ce coût, l'option plus facile, c'est de se focaliser sur le présent, il me semble. Le maintenant, pas ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, c'est plus tangible en quelque sorte. On peut voir cela. Cela a l'air d'être, dans un sens, plus réel de cette foi que nous avons, de cet espoir que nous avons. Mais du coup, la foi, les choses que nous ne voyons pas, tombent de vue. Pour certains, entre nous, le danger actuel serait tout simplement la difficulté de la vie de tous les jours. Les problèmes d'argent, les problèmes de santé, beaucoup d'entre nous souffrent des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes professionnels, échecs professionnels, échecs relationnels. Ces choses peuvent dominer notre horizon à un point que Jésus commence à perdre son importance. Et le texte nous dit, considérons Jésus, retenons fermement l'assurance et l'espérance que nous avons en lui. Quelqu'un de notre assemblée qui souffre des difficultés de santé accablantes, je dirais, et cela depuis de longues années, m'a dit ceci lorsqu'on parlait de comment faire face à ces difficultés. Chaque matin, je dis au Seigneur, « Tu sais tout et je sais que ça ira. Tu me donneras ce qu'il faut, quand il le faut, pour faire ce que tu veux que je fasse. » Et cette personne a ajouté, « Ça marche toujours. Alléluia. » Ça, c'est la persévérance, chers amis. De ne pas baisser les bras parce que nous voyons que Jésus est digne de notre confiance. J'ai parlé hier avec un autre frère lors du mariage de Julien et Lynn, qui, lui, est engagé en tant que chrétien maintenant depuis 35 ans, je pense. Mais il m'a dit qu'à quel point il est peiné de voir ce qui se passe dans son pays, au Congo, de voir la souffrance des paysans innocents qui travaillent dans leurs champs, qui sont massacrés au Nord Kivu, égorgés, de voir les soldats des forces gouvernementales qui ne font rien. Il a dit que ça le dégoûte et ça le décourage, ça lui donne envie, lorsqu'il est retraité, de revenir travailler pour son pays. Il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi de telles choses arrivent et qu'il est découragé par cela. Mais, même s'il ne comprend pas pourquoi le Seigneur, dans sa main providentielle, permet de telles choses, il m'a dit que ce n'est pas pour autant qu'il baisse les bras. Pourquoi? Parce qu'il connaît d'autres choses sur Jésus-Christ. Jésus l'apôtre, Jésus le grand prêtre, Jésus fidèle comme Moïse a été fidèle. Et ce qu'il connaît suffit pour qu'il persévère. Oui, il y a des choses qui nous arrivent, qui dépassent notre compréhension, chers amis. Mais il y a aussi des choses que nous comprenons, des choses suffisamment solides pour que nous puissions bâtir toute une vie là-dessus. Jésus-Christ est digne de notre confiance. Je pense que d'autres personnes parmi nous seront tentées par les désirs de nos cœurs, de posséder quelque chose ou quelqu'un, ou de regarder quelque chose ou quelqu'un, et dire « ça, j'ai envie !» Et ça domine mon horizon. Si seulement j'avais ceci ou cela, alors là, j'aurais le bonheur. Et le danger, donc, c'est de se focaliser là-dessus. Et de laisser tomber Jésus. Jésus, c'est un peu éphémère. Ça a l'air plus attirant. Mais c'est en regardant à Jésus-Christ que nous sommes prêts à payer le prix de ne pas avoir tout ce que nos désirs cherchent à avoir. Parce que nous savons que ce que nous avons est Jésus. Le plus précieux. C'est important à découvrir cela. Je parlais de nouveau à quelqu'un d'autre hier, qui est l'ex-ministre des Affaires étrangères du Congo. Il est chrétien, converti, évangélique. Il vient de la même région du Congo que nous nous soutenons dans notre église. Et à un moment donné, il devait démissionner son poste dans le gouvernement de Kabila, car il disait qu'il ne pouvait plus apprécier la direction que le président poursuivait. Aujourd'hui, il vit en exil, parce que sa vie est en danger s'il rentrait au Congo. Mais lorsqu'il était sur place, il aurait pu, comme font beaucoup d'autres dirigeants dans son pays, exploiter son positionnement pour s'enrichir personnellement. C'est un grand danger. Pourquoi il ne l'a pas fait? Comment nous savons qu'il ne l'a pas fait? Bon, quelqu'un d'autre hier m'a dit, vous savez, ce monsieur, il a une parcelle, un terrain, dans la région d'où il vient. Et normalement, la tradition, si tu deviens grand dans la société, alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte que tu reçois pas mal d'argent et tu construis une immense maison impressionnante sur cette parcelle. Il a dit, ce monsieur, l'ex-ministre des Affaires étrangères, il n'a rien construit sur sa parcelle parce qu'il ne s'est pas enrichi au détriment du pays. Ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui garde son assurance et son espérance en Jésus-Christ parce que ce qu'il a en Jésus vaut plus que tout ce qu'il pourrait avoir aujourd'hui dans cette vie. Est-ce que vous croyez cela vous-même? Est-ce que vous cherchez encore les choses de ce monde-ci? Quel est votre propre danger, chers amis, de ne pas persévérer? Nous devons poser cette question. Nous devons être conscients du danger que nous courons. Et le Seigneur nous dit, continuons avec Jésus, retenons fermement notre espérance, notre assurance. Et si nous n'avons pas commencé avec Jésus, commençons avec Jésus. Il est digne de notre confiance. Ce n'est pas du blabla de dire « Jésus-Christ, je te donne ma vie, je te suis, je te fais confiance. » Il est notre apôtre. Il est le souverain sacrificateur, fidèle sur toute la maison de Dieu. Prions ensemble. Merci, notre Père, pour Jésus-Christ. Merci pour qui il est et ce qu'il a accompli pour que nous puissions faire partie de ta maison. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions donc nous approcher de Jésus pour la première fois, si nous n'avons pas encore fait cela. Lui faire confiance pour notre avenir. Le suivre, malgré le prix que cela coûte. Et si nous sommes ceux qui sont découragés, qui sommes sur le point dans notre cœur de baisser les bras, d'abandonner grâce à des difficultés, grâce aux tentations, grâce à la persécution même, Seigneur, que tu nous donnes de nouveau de considérer Jésus et de voir tout ce que nous avons en lui et donc de poursuivre notre objectif, la gloire céleste, avec son aide. Et cela, Seigneur, nous te le prions pour ta gloire. Amen.